A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Tapis rouge pour Hakan Gunday, le benjamin d'une littérature turque jeune et en pleine ébullition. Et ça rime avec révolution. Hakan Gunday, auteur de 8 romans explosifs et underground, nous arrive du Bosphore, le regard noir chargé de colère politique. On a encore en mémoire, c'est vrai, son terrible prix Médicis étranger 2015 pour Encore. Il y mettait en scène un jeune gamin, passeur de clandestin, en partance pour la Grèce. Terrible plongée dans l'inhumanité de notre millénaire. Alors c'est clair, hein, les extrêmes intéressent Hakan Gunday. Ses personnages respirent le mal, la souffrance, la nausée du monde. Et, surprise, dans cette rediffusion autour de l'auteur de Topaz, l'enfant terrible de cette nouvelle génération d'auteurs turcs est francophone. Bonjour Hakan Gunday.
Bonjour.
Si demain je veux me rendre dans le sud de la Turquie, à Antalya, est-ce que je peux demander à voir Topaz, la plus grande bijouterie du monde ?
Mais il est possible de le trouver parce qu'il est dans l'air.
C'est une création ou pas alors ?
Vous avez des bâtiments de ce genre sans fenêtres dans lesquels on met des tonnes de bijoux et on attend les touristes arrivés par des grands bus. Et qui les attend ? Eh bien des vendeurs qui sont prêts à parler pendant des heures pour vous convaincre à vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin bien sûr.
Alors page 17-18 de ce Topaz, titre de votre nouveau roman paru chez Galad. On fait connaissance tout de suite avec le personnage central qui s'appelle Kozan. Extrait. Kozan ?
C'était une voix de femme.
Tu peux l'éteindre, s'il te plaît ?
Une demi-heure plus tard, tandis qu'il se rasait en se regardant dans le miroir de la salle de bain, il notait qu'il n'arrivait pas à se rappeler le nom de la femme, ni ce qui s'était passé la nuit précédente. En fermant les yeux, il se souvient bien qu'ils avaient pris de la coke à Zeytinköy avec des marchands de tapis venus de Cappadoce et qu'ils étaient allés dans un club tenu par des Russes. Mais sa mémoire n'avait rien retenu d'autre. S'il avait eu en main un rasoir à lame, ses doigts auraient certainement tremblé et il se serait entaillé le visage. Ce qui énervait Kozan, ce n'était pas l'amnésie. C'était de ne pas savoir le nom de cette fille. Il savait seulement qu'elle était vendeuse. « Ne fais plus ça, » dit-il au miroir. « Ne baisse plus jamais une turque. » Il y avait tant de touristes. Il était tout à fait absurde de se taper cette nana. Une turque ne quittait jamais Antalya. Étant vendeuse, elle ne regardait jamais la télé et se contentait de bavasser. Ce qui énervait surtout Kozan, c'était qu'en moins de 2 heures, ça risquait d'avoir écorné sa réputation sexuelle dans le 22 centre d'Antalya. Un vendeur ne parle que de fric et de baise.
Merci Hakan Gunday. Alors, est-ce qu'à la fin de cette scène, votre cousin se souvient finalement à qui appartient la voix de cette femme qui est dans son lit ?
Oui, on peut même dire qui c'est. Eh bien, c'est la femme d'un de ses amis.
D'un de ses patrons.
D'un de ses patrons aussi, oui. D'un de ses...
On est dans la crapulerie, ça donne le ton déjà.
Oui. Vous savez, les relations qui sont basées sur les malentendus et sur les informations manipulées m'intéressent beaucoup. Les relations dans lesquelles les interlocuteurs disent « toi, tais-toi, moi, je vais te dire qui tu es » m'intéressent beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que je m'intéresse beaucoup aux relations entre l'Orient et l'Occident.
Et ça a à voir avec la manipulation.
Donc, ça a à voir avec tous les malentendus et ces informations manipulées qui en fait empoisonnent la communication entre l'Orient et l'Occident. D'où le meilleur laboratoire pour étudier ces questions-là, c'est le tourisme. Vous pouvez l'utiliser comme un laboratoire dans lequel vous avez ces rencontres basées sur les stéréotypes et les préjugés. Et vous avez un huis clos qui vous raconte en fait toute l'histoire des conflits, des civilisations en quelques minutes, en quelques heures, lors de ce rencontre qui est comme une sorte de champ de bataille. Parce que la relation, elle n'est pas aussi jolie que sur les brochures.
Dans votre univers, qui manipule qui ?
Vous savez, en fait, pour résumer peut-être, ici je parle du tourisme de masse. Ce livre est basé sur le tourisme de masse, qui se résume avec la phrase « tout est inclus ». qui veut dire qu'en fait, il n'y a rien. C'est le vide qui est inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous croyez qu'il y a des chameaux en Turquie, il faut prévenir les Turcs pour qu'ils en importent. C'est comme ça que ça marche, pour que vous ne soyez pas déçus. Pour que vous ayez la sensation et l'illusion de connaître tout et de savoir tout. Et comme ça, vous pouvez dormir mieux en croyant que vous savez tout du monde.
Donc, qui manipule l'information alors?
Alors, la personne qui travaille pendant 11 mois et demi et qui pense qu'il mérite tout avec très peu d'argent et vient en Turquie dans ce voyage. Il se croit donc le roi de l'univers. Donc, c'est le touriste qui essaie de manipuler la réalité, qui est complètement en fait un décor de théâtre. Et l'autre qui essaie de manipuler avec ses quelques mots de français ou bien d'anglais ou bien d'allemand en essayant de vendre des bijoux que normalement, ou bien des tapis, ou bien d'autres choses que normalement, lui, il n'arrivera jamais à acheter dans sa vie. Ça, c'est à petite échelle, ça, c'est le tourisme. À grande échelle, on appelle ça les relations internationales. Parce que peut-être qu'un petit vendeur turc vend des bijoux comme ça à des touristes, mais on nous vend tous les années des avions de guerre, par exemple.
Welcome. Loup-garou.
Alors dans chacun de vos romans, Hakan Günday, l'homme est un loup-garou pour l'homme. Est-ce que vous partez de ce postulat quand vous commencez à écrire?
Je crois que c'est une loi physique. C'est comme une pomme qui pourrit. L'homme a tendance à devenir idiot et cruel et insensible. Donc, si vous acceptez cela d'avance, il vous serait possible de le combattre. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce que j'essaye de faire en écrivant, c'est de partir d'une question et d'arriver à 1000 questions peut-être.
Quelle est la question qui est à l'origine de Topaz?
C'est l'action de vendre. Parce que... La mentalité, le cerveau et le corps, elle est là pour produire, en fait. Et si vous ne produisez rien et que vous ne faites que la vente, eh bien, il va y avoir des conséquences. Et ces conséquences seront nuisibles à votre santé mentale, sûrement, parce que ce n'est pas naturel. Vous connaissez sûrement la chanson de David Bowie qui est « The Man Who Sold the World ».
Oui, que vous avez mis en exergue hein, de votre roman.
L'homme qui a vendu le monde. Moi, je pose cette question. Alors, qui a acheté le monde? Alors, je dis, peut-être que c'est un touriste.
L'un des préceptes, c'est le mensonge. C'est la règle numéro un de toute l'organisation de ce bazar. Donc, on est dans le royaume des bonimenteurs. Et donc, la cible, c'est le touriste, pas n'importe lequel. On va en prendre un. Le touriste suisse, par exemple, c'est du pain béni, si j'ose dire. Et dans votre roman, il peut se faire piéger par ce que vous appelez la méthode des lits orthopédiques.
Oui, vous avez par exemple des petits groupes de vendeurs de porte à porte qui sonnent les portes des petites maisons dans les villages suisses et qui essaient de vendre des lits orthopédiques à des personnes âgées. Et une fois qu'ils arrivent à vendre ces lits, eh bien, ils reçoivent une certaine, bien sûr, adresse et information à propos de cette personne. Et toutes ces informations sont vendues aux agences de tourisme. Et là, ils sont après revendus au centre commercial. Comme ça, un beau jour, vous recevez une lettre qui dit « C'est très bien, vous avez gagné un voyage en Turquie pour, disons, 100 francs ou bien 200 francs. » Ce qui est inconcevable et impossible, mais vous voulez croire qu'un voyage en Turquie pour 5 jours, pour 100 euros, c'est possible. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites vos bagages, vous venez en Turquie parce que vous avez acheté un lit orthopédique, mais ça, vous ne le savez pas. Mais vous ne savez pas aussi une autre chose, c'est que parce que vous avez payé les 100 euros, eh bien, le reste, on va vous le prendre en vous vendant des bijoux, et bien des tapis et des cuirs. Voilà.
Est-ce que vous êtes parti d'un prospectus pour écrire votre roman ou d'un fait divers, comme ça arrive souvent chez vous?
Non. C'est Antalya et la côte d'Antalya, disons la Méditerranée, est en fait fabriquée pour réaliser ce show, parce que c'est un spectacle.
Mais quel lien y a-t-il entre la chute du mur et le tourisme de masse? puisque vous y faites référence en exergue dans votre livre.
Premièrement, vous avez, dès que le mur part, en Turquie surtout, on a, avec le capitalisme sauvage qui ravage, disons, la Russie, vous avez donc ces nouveaux riches qui ne veulent que dépenser de l'argent, ils viennent à Antalya, et pour servir ces Russes, ces millionnaires, vient d'autres Russes, parce que personne ne sait parler le russe, et donc c'est un des débuts d'un grand phénomène dans le tourisme aussi de la Méditerranée.
Faites-vous le métier que vous rêviez de faire enfant?
Je ne sais pas si je rêvais d'un métier, mais je ne suis pas loin, je suis pas loin de ce métier.
Vous avez commencé par faire Sciences Po, quand même.
Oui, ça m'intéressait. Mais je savais qu'après avoir fait une ou deux années à l'école, que ce n'était pas ça que j'allais faire.
Pourquoi ?
Parce que j'étais beaucoup plus intéressé dans les règles du jeu. Je voulais connaître, en fait, beaucoup plus les lois concernant ce que c'est un être humain. Parce que si vous arrivez à comprendre un peu ce qui se passe dans la glace, dans le miroir, eh bien, il vous est que possible de comprendre tout après.
Vous voulez être un homme qui peut se regarder dans la glace?
Eh bien, je veux juste faire un pas de plus vers le miroir. Il est impossible de se connaître parfaitement ou bien complètement, parce que dès que vous croyez que vous vous connaissez, vous changez déjà.
Donc c'est la définition du politique raté? Vous êtes un homme politique raté, vous, hein?
Je ne sais pas. Oui, je crois. C'est ce qu'on m'a dit à l'université. On a dit que c'était impossible que tu aies le diplôme, donc...
Voilà. Alors, dans chaque interview que vous donnez, Hakan Gunday, vous rendez hommage à un écrivain, Louis-Ferdinand Céline, notamment pour son voyage au bout de la nuit, qui a été une révélation pour vous. Il explique, là, dans l'archive qu'on a retrouvée, comment l'écrivain peut exister dans ce monde, et c'est un monde qui se situe dans les années 60, on est en 1959.
Ce monde-ci, le monde occidental, le nôtre, monde de la Bible, puisque c'est de ce dont on parle tout le temps, eh bien, ce monde judéo-chrétien auquel nous appartenons, y compris la Russie d'ailleurs, eh bien, tout ce monde-là, et l'Amérique, vit dans la publicité, abruti, complètement abruti. Mais les autres sont abrutis par la propagande politique. Alors, en somme...
C'est un peu pareil, d'ailleurs.
Pareil. Oui. Bah, dans le temps, ils étaient abrutis par le jugement de la cour, n'est-ce pas? Il fallait faire très attention, pas se faire brûler, parce que Rabelais passait son temps à émolir lui-même, faire attention, pas être brûlé, passer sur un bûcher, n'est-ce pas? Bah, de même, en ce moment-ci, il y a des totems, n'est-ce pas? Il y a des grilleries.
Il y en a eu de tout temps.
À la cour de Louis XIV, il était absolument interdit de parler de politique. On pouvait parler de tout ce qu'on voulait, sauf d'aborder les sujets qui étaient réservés au roi. N'est-ce pas? Ça, c'est impossible. Ça, sort ça, c'est immédiatement la disgrâce et puis la Bastille. Eh bien, les totems comme ça, c'est partout. Alors, le malheureux Scriborion, faut qu'il se débrouille pour passer à travers tous ces écueils. Par exemple, ici, c'est des clics. Voilà, il y a la clique du Figaro, la clique des Goncourt, la clique de l'Académie, la clique des Trois Margaux, la clique des pédérastes, la clique des anti-juifs, la clique des pro-juifs, la clique, etc., des jésuites, la clique des catholiques, la clique des communistes, la clique... Alors, chacun a son auteur préféré, oui. Et alors on chante, n'est-ce pas, énormément, les mérites de celui qui appartient à une clique, et puis on répudie les autres, on les traite de tous les noms, ou on ne les nomme pas du tout. Il y a un interdit.
Une réaction à Hakan Gunday au propos de Louis-Ferdinand Céline?
Ça m'a fait penser à la situation du bien et du mal et comment on le construit quand il parlait des clics. Je pense qu'aujourd'hui, on a des clics du bien. Être bien, être bon, on en fait une sorte de statue. Et cette statue, on la met sur une montagne et on dit, eh bien, mon cher ami, si tu veux être bien, quelqu'un de bien, il te suffit juste de rester loyal à cette statue. Et tant que tu restes loyal à cette statue qui représente le bien, eh bien, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux commettre autant de crimes que tu veux tant que tu restes loyal à cette statue. Mais le problème, c'est que tout le monde a ses statuts, donc tout le monde se croit être bien, et malheureusement, aujourd'hui, le bien, il est mesuré avec votre loyauté à quoi que ce soit.
En tant qu'auteur primé aujourd'hui, reconnu, et qui s'attaque à des questions vraiment politiques, la question de la migration dans un roman précédent qui a été salué, vous appartenez à quel clic ?
Je ne sais pas.
Vous n'êtes pas un électron libre.
Moi, tout ce que je veux, c'est de raconter des histoires. Donc, mon patron, c'est d'abord l'histoire. Parce que quand vous commencez à raconter des histoires, en très peu de temps, vous allez avoir une queue de patron devant vous. Et ce queue de patron va être composé, par exemple, de l'argent, ou bien de la popularité, ou bien des lois pénales, la constitution, la morale, la famille. Vous allez avoir une queue de patron. Donc, il vaut mieux choisir votre patron vous-même. Et si vous choisissez comme patron l'histoire que vous racontez, il serait impossible que vous entriez dans une clique, parce que vous êtes déjà dans la clique du livre. C'est le patron le plus sévère, mais c'est le patron qui vous apprend le plus.
David Bowie fait partie de votre ensemble majeur, Hakan Gundai. Oui. Et pour l'émission, on va être un petit peu rock'n'roll suicide. C'est le titre que vous avez choisi. Vous avez parfois des instincts comme ça vous-même, rock'n'roll suicide ?
Je crois que déjà écrire à propos des parties qui ne fonctionnent pas chez l'être humain, déjà c'est rock'n'roll suicide.
Oui, on est d'accord, c'est tout.
Mais vous savez très bien en fait que même si vous croyez que vous écrivez des scènes très violentes, il vous est jamais possible d'écrire quelque chose d'aussi violent que le journal télévisé par exemple. Donc, le plus rock'n'roll suicide, c'est le journal télévisé, en fait.
Time takes a cigarette that sits in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then the cigarette. The wall to wall is calling. It lingers, but still you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. Too old to lose it, but you're too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. Well, you walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh, no, 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 you're a rock and roll suicide. Shed bricks are snarling as you stumble across the road. But the day breaks in.
David Bowie en sol majeur pour Hakan Gundai. la coqueluche de la littérature underground turque qui s'offre donc une traversée comme ça, le Bosphore, la Seine, le temps d'un ensole majeur. Petit rappel dans cette rediffusion, Hakan Gunday est donc un fils de diplomate turc qui aime Bowie, les Sex Pistols et American Psycho. Enfant terrible, on a dit, n'évoluant qu'en terre brûlée, donc. C'est désormais son surnom dans le monde littéraire turcophone et francophone. Auteur de 9 romans, prix Médicis étranger 2015 pour Encore, un roman qui suivait l'exploitation des migrants. Avec Topaz, dernier roman en date, il cogne très très fort sur le tourisme de masse et le capitalisme tel qu'il se développe dans la plus grande bijouterie de l'univers. Une question naïve qui me vient comme ça tout à coup. Est-ce que vous aimez la Turquie ?
Je suis né à l'île de Rhodes.
En Grèce.
En Grèce. J'ai grandi à Bruxelles, à Ankara, à Istanbul. Et j'ai beaucoup voyagé. Et oui, j'aime la Turquie. Parce que c'est un pays tellement conflictuel, paradoxal, tellement en ébullition. Que
c'est de la matière pour un auteur.
C'est un spectacle de feux d'artifice.
Vous êtes au spectacle.
C'est un feu d'artifice, mais ce feu d'artifice peut être aussi, bien sûr, une explosion de bombes. Mais je crois que c'est le Moyen-Orient. Ce n'est pas uniquement la Turquie. La personne qui vit en Moyen-Orient, qui est née là-bas, lui, il est au milieu d'un film d'aventure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est se sentir comme un sorte de cascadeur dans un film d'aventure. C'est le doubleur de soi-même, en fait. Et là, vous n'avez pas le temps pour vous poser des questions parce que vous êtes dans le jeu. On n'est pas dans un musée d'idées européen.
Donc, je posais cette question car, évidemment, il y a un lien de grande lucidité avec son pays et on peut développer, quand on est lucide comme vous l'êtes, un rapport comme ça d'amour-haine. Car votre Turquie à vous, Hakan Gunday, c'est plein de choses. C'est à la fois le charme du Bosphore et la poigne du général Kenan Evren.
En vertu de la loi du service interne de l'armée, qui lui donne la mission de sauvegarder la République turque, les forces armées turques ont pris le pouvoir ce matin à 5 heures pour préserver l'intégrité territoriale et l'unité nationale, enrayer la menace d'une guerre civile fratricide, restaurer l'autorité de l'État, ainsi que pour faire disparaître tous les obstacles qui empêchent le bon fonctionnement de la démocratie. Les forces armées turques demandent au pays d'avoir confiance en son armée, sortie de son sein.
D comme dictature, mode d'emploi.
Pourquoi est-ce que vous vouliez entendre ou réentendre la déclaration du général Kenan Evren ?
Parce que ça a changé beaucoup de choses en Turquie, ce coup d'État. Ça a fait disparaître des idées. Ça a été un coup à l'évolution sociale naturelle d'un pays. Quand vous intervenez à l'évolution naturelle d'une société ou bien d'un pays, vous faites de ce pays un pays handicapé, un pays dégénéré, un pays qui va grandir ou bien qui va continuer son évolution, mais d'une façon loin de son vrai identité. Ça va devenir comme l'Afrique du Nord qui parle français. Et la Turquie a perdu son identité.
C'est-à-dire ?
Quand vous entrez avec une armée comme ça, quand vous faites un coup d'État et que vous mettez des milliers de gens en prison, à la fin, vous avez quoi ? Vous faites une table rase. Intellectuellement, vous faites disparaître toutes les possibilités pour l'invention des nouvelles idées. Et est venu après, en 1984, le temps du grand libéralisme, du capitalisme. Et là, on est tous en un jour devenus des consommateurs. Et on essaye de réparer. Parce qu'un coup comme ça, c'est un discours à peu près de 2 minutes. Mais ça dure 20 ans pour réparer un discours de 2 minutes.
Alors aujourd'hui, la Turquie des années 2000 vit toujours sous l'égide d'une constitution militaire et non civile. Et cette constitution a mis en place un code pénal qui pose problème. Si on parle par exemple de cet article 301 du code pénal qui définit l'insulte à la nation.
Oui.
J'étais très étonné de voir ça.
Oui, avec un livre que j'avais écrit, ils avaient fait une demande pour qu'il y ait un procès.
Vous faites référence à Zia, votre roman Zia, qui racontait quoi?
Ben, c'est à propos du service militaire obligatoire en Turquie. Donc l'armée a voulu faire un procès, mais le procureur a dit il n'y a pas besoin, c'est un non-lieu.
Votre roman m'intéresse, cela dit. Il mettait en scène un personnage de votre famille, non? Zia.
Ziane, oui.
Qu'est-ce qui est arrivé à votre aïeul? Qu'est-ce qu'il a fait?
Eh bien, mon grand-oncle, il est né en 1900, il est mort pendu en 1926. On l'a condamné de tentative d'assassinat contre Atatürk.
Rien voilà. Moins que ça.
Et son procès est devenu une sorte de procès énorme pour en fait oppresser les opposants d'Atatürk aussi.
Donc, en publiant ce roman, vous avez été accusé, Hakan Günday, d'insulte à la nation.
Oui, mais c'était beaucoup plus, à mon avis, sur ce que j'ai écrit à propos du service militaire. Mais les communautés oppressées changent en Turquie, voyez-vous. Ça change, il y a toujours une alternance.
On trouve un nouveau bouc émissaire.
Voilà.
Parce que donc vous, le fils de diplomate, vous avez beaucoup voyagé entre Ankara et Bruxelles, vous avez fait vos études. Mais vous avez donc été soldat. Vous avez fait 14 mois de service militaire, si mes sources sont bonnes. Et ça vous a permis justement à vous, le fils de diplomate, de faire connaissance un peu avec le pays, la Turquie de l'arrière-pays. Qu'est-ce que vous avez découvert exactement?
Je me suis heurté à plein de murs psychologiques, sociologiques, culturels. Et ces murs-là, ce n'était pas en granit ou bien en béton, c'était en chair et en os, c'était des gens. Et ils étaient bien convaincus, en fait, qu'ils étaient tous seuls. Les Kurdes, les Alevis, les Sunnis. Et ils étaient loin l'un de l'autre. Parce qu'en Turquie, vous avez les racines orientales et occidentales. Et de toutes sortes de différentes racines. Mais, quand vous regardez l'histoire de la Turquie, vous voyez qu'elle a toujours eu l'envie de choisir une seule identité. Pour l'instant, c'était turc, sunnite, et c'est tout. Okay? Donc, c'est un état-nation. Mais quand vous choisissez une seule identité, eh bien, vous rejetez les autres. Et être oriental et occidental en même temps, par exemple, ce n'est pas de la schizophrénie. Être turc et kurde en même temps, ce n'est pas de la schizophrénie. Mais nous, on a fait cette erreur, et on l'a fait toujours, de choisir une seule.
Et ces tensions étaient exacerbées, vous diriez, au sein de l'armée?
Quand il y a tellement de violence qui vient dans une région, eh bien, ça empoisonne la terre. Là, vous ne pouvez plus parler de politique, vous ne pouvez plus dialoguer.
Exemple, vous avez un exemple?
Eh bien, la violence qui se déroule à l'est de la Turquie depuis à peu près 40 ans, avec PKK et l'État turc. C'est une violence qui a causé 40 000 morts. Ça, c'est atroce. Et quand vous perdez la valeur de la vie humaine dans un pays, eh bien, il vous est impossible de bâtir quoi que ce soit, comme les droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie. C'est impossible.
Alors, je suppose que c'est à l'adolescence que votre cœur déjà contestataire, Hakan Günday, a rencontré le groupe anglais Iron Maiden.
Oui.
Heavy metal et dictature, ça va ensemble, non?
En fait, j'avais 11 ans. C'était en fait le premier album que j'avais acheté dans ma vie, avec mon argent de poche. Et bien sûr, ça a changé. Et ma façon d'écouter de la musique, ma relation avec la langue. Parce que ma vraie relation, c'est avec le turc, la langue turque.
Est-ce qu'il y a des Iron Maiden turcs?
Moi, j'ai essayé de le faire, par exemple. Bien sûr que j'ai essayé d'écrire des chansons punk, heavy metal en turc, parce que je voulais utiliser cette langue, ces mots que moi j'aime dans cette musique qui me fait battre le cœur et tout.
I'm not afraid to die.
Prodigal Son, incroyable, hein, du Iron Maiden sur RFI. Avec vous, Hakan Gündai, écrivain turc, écrivain politique, tranquillement assis sur la banquette arrière d'un taxi new-yorkais.
On peut tout faire devant un chauffeur de taxi. Tout. On peut prendre son taxi pour une chambre d'hôtel.
Non, taxi, active un peu, tu veux.
On peut le mettre dans une situation gênante, faire comme s'il n'était pas là. Au fond, un chauffeur taxi, ça n'existe pas.
La ville est un véritable dépôt d'ordures à ciel ouvert. C'est tout crasse et racaille.
Je crois que je vous ai compris, Travis. Mais la tâche ne sera pas aisée.
C'est comme...
Est-ce que c'est dur de faire partie des services secrets?
Pourquoi?
Comme ça, par curiosité, aussi je pense que ça m'irait bien.
Cinémascope.
Alors, est-ce que les répliques d'un Travis Bickle, personnage culte de Taxi Driver, ont pu influencer d'une manière ou d'une autre votre univers mental d'auteur?
Sûrement, parce que sa façon de ne pas comprendre le monde et de se sentir tellement étranger à tout ce qui se passe autour de lui, sa façon de croire que en fait le monde et lui sont deux êtres différents et qui serait jamais possible de se réconcilier. C'est aussi une des méthodes que j'utilise, je crois, pour écrire. Et j'essaie d'écrire une sorte de rapport médical avec le plus de sang-froid possible.
Sur la folie et sur les psychopathes, ils sont de façon tendancieuse assez psychopathes, hein, vos personnages.
Oui.
Vous les aimez bien, ceux-là.
Je crois que moi, je suis beaucoup plus intéressé par la colère de ce Travis Bickle, et qui vient d'un désespoir, qui dit « Personne n'a demandé mon opinion à propos de tout ce qui m'est imposé. »
Exemple, je voudrais qu'on l'entende, un exemple d'un monologue intérieur qu'on trouve dans votre précédent roman, Encore. Rapidement dit, c'est l'histoire d'un gamin prénommé Gaza, qui depuis l'âge de 9 ans aide son père à faire passer clandestinement des migrants. Et il n'a clairement pas la même enfance que son petit camarade de classe, Ender. Extrait.
Bien entendu, quand Ender me demandait « Qu'est-ce que tu fais cette fin de semaine ?», je ne lui répondais pas « Je vais faire passer des clandestins, putain !» Je disais seulement « Je vais aider mon père. » Alors il enchaînait « Quel dommage que tu ne viennes pas avec moi !» Et il énumérait tous les lieux où j'avais envie d'aller. Le cinéma de la ville, la fête foraine du village voisin, la salle de jeu du centre commercial de la ville, l'un ou l'autre des deux cafés internet de notre bourgade. Ender, lui, n'avait aucune contrainte. Il n'avait qu'à faire ses devoirs, manger les boulettes confectionnées par sa mère et éventuellement suivre les cours de Coran. Moi, je travaillais comme un nègre. Je n'avais pas une minute de répit. Je ramassais les sacs dans lesquels les clandestins avaient chié et j'allais enterrer la merde derrière le dépôt. J'étais toujours sur la brèche. Et tout ça, parce que ces gens-là s'étaient mis en tête de changer de pays.
Est-ce qu'en écrivant ce monologue, Hakan Gündai, vous vous êtes demandé comment ça parle un gamin de 12 ans, fils de passeur clandestin?
Il ne m'a fallu pas beaucoup penser à cela ou bien à faire des recherches parce que j'ai vu comment les sociétés donnaient comme réaction à ce phénomène et les sociétés déjà réagissaient comme un enfant de 9 ans. Ici, Gaza ne comprend pas. Ici, Gaza, lui, il vit dans un petit village au bord de la mer Égée. Et c'est le monde, avec toutes ses inégalités macroéconomiques, que envoie tous ces gens chez lui. Donc lui, il est stable. C'est le monde qui lui envoie tous ces gens. Et lui, il se dit, sa première réaction, c'est de les accuser, ces gens-là. Il dit, c'est de votre faute si vous êtes ici. Vous m'ennuyez parce que moi, tout ce que je veux, c'est de jouer, c'est d'être un enfant. Les sociétés, à peu près, ils ont donné la même réaction. Ils ont d'abord accusé ces gens-là. Et deuxième réaction, Gaza, lui, comme il n'a pas en main des ateliers dans lesquels, par exemple, il peut faire fabriquer des sacs en cuir à des clandestins, donc il ne peut pas les exploiter de ce genre parce qu'il a 9 ans, lui, il commence à vendre, par exemple, les bouteilles d'eau qu'il doit distribuer gratuitement. Les sociétés l'ont fait. Et après, petit à petit, en vivant avec eux et en voyant, en étant témoin à leur désespoir, chez Gaza commence une empathie. Et pour les sociétés, ça a été aussi pareil. Mmh. Mais on a vu que Gaza, lui, il a changé et il ne revient pas en arrière dans le roman. Mais les sociétés sont revenues en arrière, au moins avec l'accord qu'on a vu entre la Turquie et l'Union européenne.
Oui, alors depuis le 20 mars, tous les migrants irréguliers arrivant de Turquie en Grèce sont susceptibles d'être refoulés en Turquie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux juste vous donner peut-être un exemple de ce que c'est cet accord, parce que cet accord me fait penser à l'accord qui a été signé entre la Turquie et l'Allemagne fédérale en 1961, qui est à propos de l'échange de la main-d'œuvre, d'où il y a autant de Turcs aujourd'hui en Allemagne. Parce que l'Allemagne avait besoin des ouvriers et la Turquie a dit « c'est bien, maintenant on va envoyer nos ouvriers ». Il y a eu des queues de gens comme ça dans les rues, on a regardé les dents des gens pour voir s'ils étaient en bonne santé, si on pouvait les faire travailler comme des chevaux. Et donc, c'est à peu près pareil, cet accord qu'on a vu, parce qu'en très peu de temps, on est arrivé, lors des négociations, à un stade où on a commencé à parler des droits d'entrée dans les pays, dans les territoires Schengen, pour 3 mois, comme touristes, pour les citoyens turcs. C'était un des critères des négociations. Et ce jour-là, bien sûr, je me suis dit, ah, c'est parce que des milliers de gens se sont tués à essayer de passer les frontières que nous, maintenant, les citoyens turcs, on peut venir à Paris et prendre la photo de la Tour Eiffel comme touriste. Ça, c'est peut-être un petit résumé de toute l'absurdité de cet accord. Dans cet accord, il y a tout, sauf les migrants.
Oui, il est donc question de... des hommes et des hommes en survie dans votre univers. On parlait de Céline en première partie, votre phare littéraire à Haken Gunday. J'aimerais vous offrir un petit extrait de sa correspondance. Lui qui, pour mémoire, pour rappel, avant d'être écrivain, c'était le médecin des pauvres, hein, Céline. Et donc il avait son opinion sur cette question des pauvres et du peuple, qui est une question sémantique qui intéresse la gauche.
Le malheur en tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de peuple. Au sens touchant, vous l'entendez. Il n'y a que des exploiteurs et des exploités. Et chaque exploité ne demande qu'à devenir exploiteur. Il ne comprend pas autre chose. Le prolétariat héroïque, égalitaire, n'existe pas. C'est un songe creux, une faribole. D'où l'inutilité, la niaiserie absolue, écœurante de toutes ces imageries imbéciles. Le prolétaire en code bleu, le héros de demain et le méchant capitaliste repu à chaîne d'or. Ils sont aussi fumiers l'un que l'autre. Le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Rien de plus, rien de moins.
Le pauvre n'existe pas pour Céline. Qu'est-ce que vous en dites, Haken Gunday ?
Par exemple, après le roman encore, j'ai beaucoup parlé à propos des migrants, et du bien et du mal. Et ça m'a permis, comme Gaza d'ailleurs, le personnage, de dire que dans une seule vie, il vous est possible d'être migrant, donc réfugié, passeur de réfugiés et résident d'un pays qui va sortir la tête de la fenêtre et qui va dire « mais d'où ils sortent tous ces gens ?» En une seule vie, il vous est possible d'être tous ces trois-là. Donc, en fait, l'exploité va peut-être devenir un jour l'exploiteur. Ce qui va l'empêcher de devenir l'exploiteur, c'est qu'il soit conscient qu'il peut devenir un exploiteur. C'est la seule chose qui peut l'empêcher.
Mais vous n'êtes pas vous-même dans ce que j'appellerais l'exaltation du pauvre. Vous décrivez
non.
Les pauvres comme des salopards potentiels. Enfin, voilà, c'est
tous,
le genre humain.
Nous sommes tous égaux devant notre chair.
Devant la saloperie.
Nous sommes tous égaux devant notre chair qui fait de nous des loups-garous. Voilà.
Comme
Sex. Drug and rock and roll.
Alors, est-ce qu'il y aurait un petit lien comme ça entre Sid Vicious qui reprend My Way, enfin, qui déglingue le morceau de Sinatra, et Sid Vicious que vous avez en intraveineuse, hein, ça se voit d'ici. Et ce petit ronflement qui n'est pas très rock'n'roll d'ailleurs.
Vous avez le paradoxe dans cette musique, le conflit, et vous avez aussi la provocation. Et cette provocation sert à faire sortir toutes les réactions possibles de l'interlocuteur qui peut être l'autorité. Et ces réactions seront souvent, bien sûr, absurdes. Et comme ça, il vous serait possible de dénoncer l'absurdité d'une autorité, par exemple. Le ronflement, ça c'est une autre histoire. Le ronflement, c'est, ça a à voir, à mon avis, avec la gravité. Donc c'est les paupières qui tombent et nous, on a tendance à s'endormir. Et ce qui nous fait rester éveillés, ce sont tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on court après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'informations. L'information qui vient jusqu'à vos pieds et l'information après laquelle vous courez. L'information qui vient jusqu'à chez vous, soit dans la boîte à lettres, soit à l'internet, c'est souvent une information qui veut vous vendre quelque chose. Souvent, c'est une marchandise joker qui est la peur. On veut vous vendre la peur. Parce qu'une fois que vous achetez la peur, après, vous pouvez acheter tout. La haine, le racisme, les préjugés. Mais l'important, c'est d'acheter la peur. Donc, tous les livres qui m'ont influencé, et tout ce que moi, j'essaye de faire, dans Topaz, par exemple, j'essaie juste de dire au lecteur, s'il vous plaît, si vous allez acheter une peur, demandez d'abord son prix. Combien ça va vous coûter? Vous allez payer avec quoi? Votre innocence, votre humanité, votre libre arbitre? Mais si vous vous contentez avec l'information qui vient jusqu'à chez vous et vous l'acceptez comme vraie et que vous achetez toutes les peurs, il vous est possible de dormir très bien la nuit et de ronfler autant que vous voulez. Pourquoi? Parce que les rêves que vous ferez ne seront pas les vôtres. Vous ferez les rêves des personnes qui vous ont endormi.
Alors, je ne sais pas ce que vous faites hein, pour rester sexe, drugs and rock'n'roll, c'est-à-dire éveillé. Peut-être des tatouages aussi pour vous rappeler à vous-même qu'il ne faut pas ronfler. Vous avez un très beau tatouage sur votre bras, Hakan Gundai. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage?
Ce sont des lettres, des demi-lettres turques. Et c'est écrit humain. Mais comme c'est demi, ça veut dire mi-homme, mi-on ne sait pas quoi.
Pourquoi vous vous êtes tatoué ça?
C'est ce que je sens, je sais pas. Et celui-là, c'est des lettres de Morse. C'est quatre lettres et ça veut dire illettré. Parce que je sais très bien que je ne serai jamais capable d'écrire le roman que je veux.
Une dernière question, est-ce que vous, Hakan Gundai, qui avez été formé en partie en Europe, ça explique le fait que vous puissiez faire aujourd'hui des interviews en français, je vous en remercie. Est-ce que vous êtes un peu comme la Turquie, c'est-à-dire en quête de votre identité, vous cherchez entre l'Europe et l'Orient?
En fait, moi non, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que moi, je n'ai pas de relation avec les montagnes, les rivières ou bien les villes. Ce sont les gens qui m'intéressent, ce sont les livres qui m'intéressent. Donc, mon identité... C'est en fait ce que j'essaye de produire. C'est grâce à ça que j'ai petit à petit une idée de mon identité. Mais cette recherche n'est pas basée sur l'Orient ou l'Occident. Mais la Turquie, oui. Et la Turquie, est, à mon avis, est obligée d'inventer et d'improviser son identité. Parce que quand vous essayez...
C'est pour ça que vous dites que la Turquie est une terre jazz.
Oui, oui, oui. Parce que quand vous...
Elle improvise chaque note.
Voilà. Mais s'il y a quelque chose de mauvais, c'est parce que c'est l'improvisation aussi.
Il y a des couacs.
Voilà. La Turquie a fait trop longtemps la guerre avec elle-même. Et il faut qu'elle fasse la paix d'abord avec elle-même.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet En sol majeur, consacré à Hakan Gundai, la voix de Jacques Derrida et de Céline... un bazar digne de son écriture. Ça donne Topaz, paru chez Galade. Et puis enfin, la version intégrale de My Way, version acide, c'est-à-dire Sid Vicious.
Oh now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Each and every highway exerts much more than this. I did it my way.
Sol majeur avec Facebook, Twitter, sur votre application Pure Radio, ça c'est en podcast. Et puis derrière votre poste, ça c'est chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine autour d'une rediffusion avec Cyril Pedrosa. À la semaine prochaine.